When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vous voulez un whisky ?
Oui, juste un doigt.
Juste un droit.
Taper sur son clavier d'ordinateur ou sur un écran de téléphone pour blesser quelqu'un. Revenge porn, trolling, appel au viol, insultes racistes, toutes ces pratiques écœurantes relèvent du cyberharcèlement. Considéré comme un délit depuis 2014, le phénomène n'a plus grand-chose de virtuel. D'après un sondage IFOP pour France Info, 22% des jeunes majeurs disent avoir été la cible de harcèlement en ligne. En ligne, justement, le sujet est de toutes les timelines, après les témoignages accablants sur la Ligue du LOL, un groupe Facebook quasi exclusivement composé d'hommes, pour beaucoup journalistes ou communicants. Pendant plusieurs années, ils s'en sont pris en ligne à des femmes, féministes, noires, LGBTQ et grosses. Que dit la loi ? Le cyberharcèlement est puni d'une peine maximale de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Entre les coups portés sur la toile, le dépôt de plainte et la convocation au tribunal, toute une mécanique judiciaire est à l'œuvre, et c'est pour en démonter les rouages que l'équipe de Juste un droit a réuni des experts de choix. Lucille Rouet, je me tourne vers vous. Vous êtes secrétaire nationale du syndicat de la magistrature et juge des enfants à Paris. Avant cela, si je ne me trompe pas, vous étiez magistrate au parquet de Bobigny. Bonjour et bienvenue dans Juste un droit.
Bonjour.
À vos côtés, Éric Morin. Bonjour.
Bonjour.
Alors, avocat au barreau de Paris, vous défendez régulièrement des victimes de cyberharcèlement. Et je ne crois pas dire de bêtises en affirmant que vous êtes aussi membre du collectif d'avocats Jamais sans elle, créé par l'association du même nom, pour aider les victimes de cyberharcèlement de meutes.
C'est exact.
Super. Sur un sujet aussi délicat, j'ai la chance d'être accompagné, pour ne pas dire guidé, par Hélène Sergent, journaliste au service police-justice de 20 minutes. Alors je profite de cet instant pour ouvrir une petite parenthèse autopromo, c'est l'instant pub. Alors avec Akima Abounemoura et Laure Baudonnet, tu publies chaque lundi depuis septembre 2018 le témoignage d'une victime de cyberharcèlement. Aussi choquant qu'émouvant, leur récit est à lire sur 20minutes.fr en cherchant prix pour cible. Voilà, je referme la parenthèse pub. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Bon, les présentations sont faites, il est temps d'ouvrir le dossier d'un double clic. Éric Morin, on ouvre avec vous. Comment et quand le cyberharcèlement a-t-il été reconnu comme un délit ?
Alors c'est assez récent, ça date de 2014. Avant, il y avait eu un certain nombre de poursuites, mais qui étaient liées à l'infraction de violence. Et puis le développement, hélas, de ces comportements a créé une première loi. Et puis, il y en a eu une dernière récemment, début août 2018, où on a changé de paradigme, inversé un petit peu, retourné la lunette. Plutôt que de voir la répétition d'un comportement de harcèlement par la même personne, on s'est attaché, pour qualifier le harcèlement en meute, la répétition par un groupe de personnes informel à destination d'une seule et même personne qui en devient la cible, qui en devient la victime. Et c'est effectivement ce que l'on constate là dans un certain nombre de cas encore récents.
Et quelles sont les différentes formes de cyberharcèlement ?
Oh, elles sont vastes. Vous savez, on a mis le paquet pendant des années sur le harcèlement moral, sur le harcèlement au travail, sur le harcèlement sexuel. Finalement, le cyberharcèlement, aujourd'hui, il en prend, je dirais, la substantifique moelle de ces harcèlements. Il n'est pas très, très différent. Ça n'est pas que virtuel pour la victime. Il y a tout de même une caractéristique, c'est que le harceleur est loin. Vous aviez aussi des harceleurs au téléphone, mais vous avez quand même cette caractéristique de l'éloignement qui fait qu'il y a un sentiment d'impunité vraiment totale du cyberharceleur qui est avec ses doigts, ses touches, son clavier, son écran et qui harcèle à distance, parfois même à très longue distance.
Alors, on reviendra effectivement plus tard sur cette question de l'anonymat. Hélène, alors à ton tour, je suis victime d'une forme de cyberharcèlement, de harcèlement en ligne. Bon, la question est simple, c'est qu'est-ce que je dois faire ?
Alors nous, ce qu'on a pu constater à travers les différents témoignages qu'on a recueillis, c'est la nécessité de faire des captures d'écran, de conserver les preuves, notamment si on veut ensuite déposer une plainte, ça peut être très utile. C'est pas forcément la première chose à laquelle on pense, mais il faut pas l'oublier, pas le mettre de côté. Donc conserver les messages injurieux, les menaces de mort, les tweets, les posts Facebook, ça peut être une première chose à faire. Ensuite, on peut évidemment se protéger, donc signaler les contenus, évidemment masquer les internautes qui peuvent réitérer les propos injurieux, les menaces de mort, les menaces de viol, pour ne plus les voir. Donc ça, toutes les plateformes le proposent, que ce soit Facebook ou Twitter ou YouTube à travers les commentaires. On peut aussi, ça c'est aussi un point qui est important et qu'on a pu retrouver chez beaucoup de victimes, c'est ne pas s'isoler. Donc penser à parler, penser à échanger, à sortir de sa solitude. Il y a des associations, il y a des plateformes qui existent, notamment celle qui a été mise en place par l'association e-enfance, qui prodigue aussi des conseils pour justement faire retirer certains contenus, les démarches à suivre, notamment sur le volet judiciaire. Donc ça peut être une étape importante. Ce qu'on conseille aussi, et ce que nous conseillent celles et ceux qui sont passés par ces cyberviolences, c'est de signaler sur la plateforme Pharos, donc là qui est directement gérée par des policiers et des gendarmes, qui sont spécialisés sur le domaine, pour faire retirer des contenus illicites, pour signaler surtout des contenus illicites, et pour éventuellement être mise en relation ensuite avec des gendarmes ou des policiers qui peuvent rappeler la personne qui fait le signalement. Ça, c'est une possibilité. Et l'autre chose, évidemment, la dernière qui n'est pas la plus simple, c'est évidemment de porter plainte. Donc se rendre dans un commissariat, dans une gendarmerie. Il y a une autre possibilité aussi, c'est qu'on peut écrire au procureur de la République pour signaler les faits. Alors il faut préciser évidemment, faire un récit assez détaillé, je crois, si je ne me trompe pas, des faits, du lieu, de la date de l'infraction, de l'identité, si jamais les cyberharceleurs sont en train de cyberharceler avec leur véritable identité, donc noter leur nom. Voilà, tout ça peut se faire par un courrier qui est envoyé au procureur de la République avec accusé de réception, il me semble.
Tu l'entends ? Il faut que je me débarrasse de ces gêneurs pendus à ma sonnette toute la journée, ne me laissant aucun moment de paix.
Éric Morin, je me tourne vers vous. Je veux porter plainte. Combien de temps j'ai pour le faire et dans quelles conditions je peux porter plainte ?
Alors, la question du temps qu'on a pour le faire, elle est peut-être moins importante que le fait qu'on doit agir très vite. Comme le disait Hélène Sergent, il faut faire des captures d'écran, mais au-delà de ça, il faut essayer, notamment sur Twitter ou sur Facebook, de conserver et d'enregistrer les adresses URL. Parce que les copies écran ne servent pas à pouvoir accéder à ces adresses et les plateformes ou les services enquêteurs auront besoin ensuite des adresses URL que vous trouvez dans la petite barre qui est en haut de votre écran. Après, ce sont des délits donc qui sont aujourd'hui prescrits depuis la loi de mars 2017 par 6 ans, mais évidemment le plus rapide est le mieux parce que le cyberharcèlement il arrive à ce moment-là, dans un moment très fort, et le but c'est de pouvoir le faire cesser. Se rendre dans un commissariat ou dans une gendarmerie, aujourd'hui, c'est presque un vœu pieux pour ce type de délit. J'ai tous les jours, des témoignages de personnes qui ont cherché à aller déposer plainte dans des commissariats ou dans des gendarmeries. Paul ou Marion ou Samir qui habitent dans l'Oise, qui habitent dans le Gers, qui habitent dans le Var. Lorsqu'ils y vont, d'abord, ils tombent sur des policiers ou des gendarmes qui ne savent parfois même pas ce que sont certains réseaux sociaux ou qui sont sur Facebook parce que leur fils ou leur petit-fils leur ont dit d'y être, qui ne savent pas ce que c'est que Twitter, qui ne savent pas ce que c'est que Facebook et qui vont d'abord leur dire « écoutez, c'est pas grave, vous n'avez qu'à pas y aller ». Voilà, c'est tous les jours que ça arrive. Et aujourd'hui, on parlera après du rôle de la justice et comment la justice appréhende ces délits, mais cette première porte, elle n'est pas ouverte, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Parce qu'aujourd'hui, les policiers, les gendarmes, ils ont sans doute des choses bien plus importantes à faire, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de politique pénale en matière de cyberharcèlement, il n'y a pas d'instruction de politique pénale qui sont données au parquet, et qu'à partir du moment où les parquets ne sont pas suffisamment sensibilisés à ces problématiques, comment voulez-vous que les enquêteurs, qui sont en première ligne, qui vont être les premiers interlocuteurs de ces plaignants, il n'y a pas de sensibilisation à ces questions. Et aujourd'hui, c'est l'urgence. On ne peut pas dire... On ne peut pas avoir une volonté politique, et manifestement il y en a une, de dire voilà, on va mettre ça au cœur des préoccupations, si ça ne se traduit pas par une sensibilisation et par le fait que les services enquêteurs et les tribunaux doivent être concernés, sensibilisés et surtout réactifs, aussi rapides qu'un clic de souris.
Lucile Rouet, pour vous, il y a un problème de ce côté-là au niveau de la magistrature, un manque d'informations ou le fait que, tout simplement, la magistrature ne serait pas à jour sur la question du cyberharcèlement ?
Ce qui est sûr, c'est que la justice a toujours besoin de temps pour s'adapter aux infractions. Il faut déjà que le constat soit fait que des nouvelles infractions existent et ensuite que la magistrature s'adapte. Et puis, il faut aussi prendre en compte le fait que c'est un phénomène qui n'est pas forcément le même sur tout le territoire. Des services, par exemple, parisiens, des parquets parisiens sont habitués à ce genre de choses. Des parquets plus petits, ça peut être plus difficile et il n'y a pas forcément de magistrats spécialisés dans ce domaine-là. Donc, c'est plus une question de temps que d'obstacles en tant que tel. Il faut du temps pour que la justice s'adapte. Et que la loi aussi
ça passe peut-être par plus d'hommes, du coup
En général, il faut plus d'hommes. Pour pouvoir traiter des plaintes, traiter une lettre au procureur de la République, il faut des gens derrière. Il faut des greffiers derrière qui enregistrent cette plainte et il faut des magistrats derrière qui prennent cette plainte et qui la transmettent au service de police ou de gendarmerie spécialisée. Mais plus généralement, c'est en effet la connaissance de ces infractions-là, ce qui passe par la formation continue et une spécialisation des magistrats.
Donc du coup, je vais continuer avec vous sur cette question précise. J'ai déposé plainte. Comment se déroule l'enquête ensuite? Quel est le trajet classique sur une question d'une plainte pour cyberharcèlement?
Alors, ça dépend comment vous déposez plainte. Si ça vient de se commettre ou si c'est un petit peu plus long, ça ne va pas se passer de la même façon. Si ça fait plusieurs jours et qu'on est dans ce qu'on appelle une enquête préliminaire, les services d'enquête vont appeler le procureur de la République pour avoir une autorisation à réquisition, pour en fait pouvoir contacter les plateformes pour obtenir une identification des personnes qui ont pu faire ça. S'il faut conserver des éléments techniques, il faudra que le procureur de la République demande au juge des libertés de la détention. Ça, c'est pour le volet technique. Si vous avez écrit au procureur de la République, ce que vous pouvez faire par courrier, mais ce que vous pouvez aussi faire en vous présentant dans un tribunal, vous êtes censé avoir accès au formulaire, le procureur de la République va transmettre un papier qu'on appelle un « soit transmis » au service d'enquête, où il autorisera les services d'enquête à faire ces actes-là. Ensuite, il y a tout le côté, et c'est pour ça que souvent c'est aussi des parquetiers spécialisés en la matière, tout le volet victime qu'il faut traiter. C'est-à-dire qu'il faut faire une audition de la personne qui se dit victime, bien l'entendre et être formé pour ça. Il faut aussi écouter peut-être l'entourage de cette personne, voir en quoi elle a subi un trouble, la faire examiner par un psychologue, voir les conséquences des actes qu'elle a subis peut-être parfois depuis des semaines sur sa vie quotidienne. Et puis ensuite, on va, si on a identifié les personnes, on va ensuite les entendre leur version et voir si on a assez de preuves en la matière. La difficulté, notamment quand on s'en prend, comme le prévoit désormais la loi, quand on est plusieurs à s'en prendre à une personne, c'est la question de la responsabilité individuelle de chacun. Et ça, c'est difficile à prouver dans les faits.
Vous avez utilisé le terme justement d'identité. Aujourd'hui, est-ce que les plateformes, j'imagine que j'ai déjà un petit peu la réponse à cette question, mais est-ce que les plateformes jouent le jeu? Est-ce qu'elles sont réactives et est-ce que justement elles jouent le jeu de la justice? Est-ce que vous donnent l'identité quand vous la demandez des personnes responsables de cyberharcèlement?
Je dirais que les choses s'améliorent, mais ça peut être encore difficile. Par ailleurs, encore une fois, il faut que la loi s'adapte, mais ça prend du temps. Et la loi ne s'adapte pas forcément sur tout. On parlait tout à l'heure de Pharos. Elle n'est pas prévue pour le cyberharcèlement. C'est pas une des infractions qui est prévue pour Pharos. Et on se rend compte que le cyberharcèlement ne fait pas l'objet des renvois dont il aurait besoin, en fait. Par exemple, sur l'obligation des plateformes, le cyberharcèlement n'est pas visé comme infraction pour laquelle ils sont obligés de signaler. On voit qu'on a une volonté de bien faire, mais qu'on n'est pas allé jusqu'au bout des choses, et que du coup, ils collaborent, mais il n'y a pas de délai qui est fixé, et ça peut prendre du temps pour avoir des réponses.
T'as quelque chose à dire?
Non.
Voilà. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous.
Éric Morin, vous avez été l'avocat notamment de Nadia Dam, qui a été violemment harcelée, je crois, l'an dernier. Comment ça s'est passé de ce côté-là? Est-ce que les plateformes ont été plutôt réactives?
C'est très compliqué, c'est un petit peu empirique et puis c'est en devenir. D'abord, dans l'affaire de Nadia, qui a vraiment été une pionnière en la matière et c'était courageux de sa part, même si c'est allé assez rapidement, c'est il y a 8 mois. Hein. Donc quand on dit rapidement, vous voyez, on est quand même dans des délais assez longs. C'était lié à une plateforme qui s'appelle jeuxvideo.com, dont elle avait parlé dans une chronique, et qui est détenue par Webmedia. Qui a joué le jeu parce que il y avait sans doute aussi une question de survie pour eux, vu le bruit qu'on avait fait autour de cette affaire, et que c'était aussi une manière de ne pas perdre et leur clientèle et leurs annonceurs et leur business. Mais donnons-leur ce crédit, ils ont joué le jeu et on a pu obtenir un certain nombre d'identifications. Attention, quand on parle d'identification, c'est pas le nom, le prénom, l'adresse et le code postal de la personne. Ce sont des identifications d'adresse IP, ce sont des identifications d'adresse mail, avec lesquels ils se sont inscrits, et ça ne donne pas une carte d'identité exacte de celui qui est derrière son clavier. D'ailleurs, une adresse IP peut être utilisée par plusieurs personnes, voire même piratée par qui, un voisin du dessus, du dessous.
Boulot, un cybercafé.
Exactement. Donc, dans l'affaire de Nadia Adam, on y est arrivé par ce biais-là. Il y avait aussi des messages Twitter qu'elle avait subis. Aujourd'hui, Twitter, on le dit, même son président commence à le dire. Mais enfin, c'est le vilain petit canard. Aujourd'hui, Twitter ne joue pas le jeu. Aujourd'hui, Twitter a ses propres règles et juge de lui-même, et y compris avec des services enquêteurs. J'ai en mémoire une affaire où on avait signalé à peu près une trentaine de messages de tweets injurieux, diffamatoires, etc. Et Twitter ne retient que les menaces de mort ou les menaces de viol, parce que là, ils se disent, bon, bah, si jamais en plus ça devait arriver, on serait mal de ne pas avoir répondu. Mais tout ce qui relève des injures, y compris des injures aggravées à caractère sexiste, antisémite, raciste, homophobe et autres, et des diffamations aggravées également, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. On ne sait pas d'ailleurs qui nous répond, qui répond à ces réquisitions. Il y a une ligne mail dédiée des services enquêteurs pour ces réquisitions. On ne sait pas qui il y a derrière, et puis parfois ils répondent, parfois ils ne répondent pas. Comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de délai, donc on est aussi tributaire de ce délai. Quand on est le plaignant et la victime, on dit bah, « alors, où est-ce que vous en êtes ?» Et puis bah, on attend, et puis parfois on a des réponses, parfois on n'a pas de réponse. Et puis au final, sont renvoyés ou sont identifiés, puis ensuite sont renvoyés et sont jugés, bah, ceux qu'on a bien voulu et ceux qu'on a bien pu identifier. Ça fait un petit nombre par rapport à la masse, mais c'est en devenir et on espère que ça va fonctionner de mieux en mieux en tout cas.
Hélène ?
Nous, on l'a vu aussi quand on a voulu enquêter un petit peu justement sur les questions de ces signalements et de ces demandes d'identification formulées par les autorités françaises. Facebook France, maintenant, communique très bien sur ces éléments-là et donne de façon assez précise les données avec les proportions de demandes effectuées par les autorités françaises et puis les demandes auxquelles Facebook a accédé. Alors, on n'a pas encore une transparence totale, on n'a pas de critères, sur quelle base et sur quels critères Facebook a accédé à la demande des autorités. En revanche, Twitter, aujourd'hui, c'est impossible. C'est-à-dire qu'on n'a aucune donnée sur les demandes liées aux identifications dans des cadres de cyberharcèlement. On ne sait pas à quoi ça correspond et il n'y a pas une volonté derrière, visiblement affichée, de vouloir communiquer davantage sur ce sujet-là. Ça reste...
Et c'est d'ailleurs très étonnant parce qu'aujourd'hui, ce qui caractérise les grandes sociétés américaines, que ce soit des sociétés de réseau ou des cabinets d'avocats américains, etc., ça n'est plus de communiquer sur leurs compétences, leurs technologies, mais c'est de communiquer sur l'éthique, sur le pro bono, sur tout ce qui fait tout ce qui font leur valeur. Et Facebook a pris ce train en marche. Bon, on n'a pas été le leader, mais en tout cas, aujourd'hui, est dans le train. Aujourd'hui, Twitter ne communique pas là-dessus. Ou en tout cas, s'il communique, dans la réalité des faits, ça n'est pas le cas. Et aujourd'hui, Twitter reste un champ de bataille parce que Twitter l'accepte.
Hélène, je crois que tu avais une question sur les moyens, tout simplement, de l'État, éventuellement, pour faire pression sur les différents interlocuteurs.
Oui, il y a eu un plan qui a été présenté, un plan d'action qui a été présenté la semaine dernière, donc courant février, par Mounir Majoubi, notamment le secrétaire d'État au numérique, et pour lutter davantage contre les contenus haineux, racistes, antisémites, les contenus en ligne. Et il y a un point, notamment, enfin plusieurs points à travers ce plan, qui insiste sur le retrait des contenus. Moi, je m'interrogeais sur justement une des principales difficultés qu'on a évoquées tout à l'heure, sur l'identification des auteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics ont les moyens de contraindre les sites comme Facebook ou Twitter de transmettre ces informations? Et sinon, est-ce qu'une modification de la loi pourrait contraindre ces entreprises américaines à transmettre ces informations? Est-ce qu'on peut l'imaginer ou pour vous, ça vous semble... complètement...
Alors il y a l'exemple allemand. Hein, aujourd'hui en Allemagne, il y a eu une vraie volonté politique alliée à une véritable coopération avec les plateformes en Allemagne. C'est parti d'une affaire qui a touché l'État allemand avec un cyberharcèlement particulièrement violent à l'encontre d'un homme politique allemand et qui a fait qu'il y a eu une loi mais qui a été faite en concertation avec les plateformes en Allemagne et qui se soumettent, mieux qu'avant en tout cas, à la loi allemande, à la loi sur la liberté d'expression en Allemagne. Aujourd'hui, ça ne peut passer que par là. Parce que tout ce que vous pourriez imposer, même si on a la LCEN, même si on a le RGPD, tous ces sigles que vous pourrez retrouver en tapant sur Internet, aujourd'hui, il n'y a pas de représentation légale de Twitter, par exemple, en France. Il y a un bureau dans le centre de Paris, mais ça n'est pas une société avec un représentant légal. Donc tout ce que vous pouvez faire, y compris en mettant des amendes particulièrement dissuasives, pourra passer par pertes et profits tranquillement et vous ne pourrez pas les forcer. Ça passe par la coopération. Ils ont besoin effectivement des États, ils ont besoin des États parce qu'ils ont besoin de leurs utilisateurs et nous on a besoin d'une certaine coopération. Il ne s'agit pas de rendre tout transparent, je pense qu'on parlera tout à l'heure de l'anonymat, du pseudonymat et de la révélation d'identité, mais harceler, ça n'est pas la liberté d'expression. Injurier, diffamer, ça n'est pas la liberté d'expression. Il y a des limites. Ces limites, quand elles sont franchies, il faut une coopération de ces plateformes, mais ça passe par une coopération au niveau gouvernemental, parce que sinon, on n'y arrivera pas.
Lucille Roulet.
Vous parliez de volonté tout à l'heure. La volonté, elle peut aboutir. On a des systèmes particuliers qui existent. Pour la pédopornographie, on a déjà des systèmes particuliers. On a une loi du 14 mars 2011 qui permet des blocages administratifs. Donc, on voit qu'il y a des systèmes et des strates de contrôle et de blocage qui peuvent exister pour la pédopornographie. Le problème, comme je le disais tout à l'heure, c'est que le parallèle n'est pas forcément fait pour le cyberharcèlement, qui est une infraction relativement récente, en fait, et un phénomène qui est apparu récemment. Il faut voir où sont les enjeux et si, à la suite des enjeux et des libertés qui sont en cause, on décide d'y mettre cette volonté.
Et puis, supprimer les contenus, c'est bien, mais ça n'est parfois pas suffisant. Et c'est surtout que, techniquement, parfois, la suppression des contenus empêche les poursuites. Donc, à la fois, vous allez aller signaler des contenus qui vont être ensuite supprimés ou interdits, puis vous allez vous priver aussi de la possibilité d'une poursuite. Alors, faut aussi faire un choix. Parfois, quand on est victime de cyberharcèlement, on veut d'abord que tout ça s'arrête et que tout ça soit supprimé. Mais quand on voit, il y a quelques jours, que Twitter a mis plus d'une semaine pour bloquer le compte Rivarol, qui déversait une haine antisémite, mais d'une violence et d'une récurrence et d'une ignominie sans nom, mettre 8 jours pour faire ça, vous imaginez lorsque justement c'est quand je parlais de Paul et Marion qui sont cyberharcelés au fin fond de la France, Twitter ne réagira pas et c'est bien dommage.
Bonjour madame.
Est-ce que les mots sexisme et discrimination raciale ont un sens pour vous, monsieur Martinez?
Là, c'est une question un peu pour vous deux, parce que avec Hélène, on s'est un peu interrogé là-dessus. Et le sentiment d'impunité des cyberharceleurs, est-ce qu'il vient du fait que le délit est récent? C'est-à-dire que, en soi, le cyberharcèlement n'existe dans le code pénal que depuis 2014, même si on l'a vu, par exemple, dans le cas de la Ligue du LOL, la Ligue du LOL a été créée en 2009, ou le fait que tout ça se passe en ligne et que c'est le monde immatériel, tout est virtuel, et que ce n'est pas la vraie vie.
Le fait que ce ne soit pas la vraie vie, ça joue quand même dans la difficulté à réaliser qu'on commet une infraction. Quand on voit des hommes qui travaillent, qui vont commettre ce genre de choses ou télécharger des images pédopornographiques, quand on les voit à l'audience, avec leur femme qui est dans la salle, tout penaud, on se rend compte qu'en fait, il y a vraiment un écran entre les deux et qu'ils ne réalisent pas ce qu'ils sont en train de faire. Sur les mineurs qui peuvent commettre ce genre d'infraction de cyberharcèlement, c'est un peu la même chose. Et c'est pour ça qu'il y a toute une question de pédagogie et d'éducation. Il faut du temps pour amadouer ces outils, il faut du temps pour éduquer ces générations à ces outils-là, et il faut en réalité accompagner ces mineurs-là pour réaliser justement qu'il y a des victimes derrière. Ça, c'est le travail du juge des enfants, c'est de mettre en confrontation la victime et l'auteur et de permettre à un individu de réaliser qu'il a fait du mal à quelqu'un et qu'il faut réparer ces dommages-là. Donc il faut parfois, ça peut pas être dans l'immédiateté, ça peut pas passer par une réponse immédiate, ça passe par un peu de temps et la maturation de cette idée-là. Mais en effet, l'écran rend virtuel l'infraction et l'absence de conscience qu'on a commis un délit.
Éric Morin.
Oui, ça y participe. Il y a plusieurs constantes qu'on retrouve avec le peu de recul que l'on a, mais on commence quand même à en avoir. L'an dernier, c'est plus de 100 condamnations qui sont intervenues sur le territoire national. D'abord, ce sont des hommes, dans la quasi-totalité des cas, un peu comme les cas de détention ou de partage d'images pédopornographiques, il y a une appropriation par les hommes. Et les victimes sont majoritairement, pas que, mais quand même majoritairement des femmes. Ensuite, lorsqu'ils se retrouvent dans un box, ils ont tous la même phrase. Je ne pensais pas un jour me retrouver là. C'est-à-dire qu'il y a un décalage abyssal entre ce qu'ils ont fait, le fait qu'après on va les retrouver parfois plusieurs mois après, parce que les investigations sont longues, ou parce qu'il y a des questions de compétences territoriales qui vont faire que le dossier va être envoyé à tel ou tel procureur ailleurs. Et puis, ding-dong, un matin, ou bonjour au téléphone, on aimerait vous voir, c'est pourquoi, bah, on vous dira. Et puis, monsieur, vous êtes placé en garde à vue parce que vous avez posté tel ou tel message il y a maintenant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et la personne se dit, mais je ne pensais jamais, quelle que soit même la nature du message, vous pouvez avoir les messages les plus, pardon, les plus dégueulasses qui ont été envoyés. La personne ne se rend pas compte qu'un jour, elle pourra en rendre compte, justement, devant la justice. Et puis, cette impunité, elle est là, ils regardent leurs chaussures, ils ont un air penaud, qui est leur famille ou pas dans la salle, et ils lâchent, c'était que des mots. C'est pas que des mots. Lorsque vous êtes la victime, vous les prenez toujours au premier degré. Lorsqu'on vient vous dire, quand on vous envoie un message, on va te retrouver, on sait où t'habites, on va suivre tes enfants, on va venir te violer, on va venir chez toi, la victime de cyberharcèlement, elle le croit. Elle ne peut pas psychologiquement balayer ça d'un revers de main et dire ça n'existe pas. Et donc c'est ça qui crée effectivement l'isolement dont parlait Hélène Sergent tout à l'heure, c'est ça qui crée la peur. Et le cyberharceleur doit s'en rendre compte, et quand c'est la justice qui lui dit, parfois il s'en rend sincèrement compte, parfois uniquement parce qu'il a été pris par la patrouille.
Hélène ?
Oui, par ailleurs, on le retrouve beaucoup, ce décalage entre la perception du cyberharceleur et ce qu'a ressenti la victime. Parmi les constantes qu'on retrouve chez les personnes qui ont été victimes de cyberviolence, c'est des choses très concrètes, un impact sur la santé physique, mentale, des cas de dépression, des sentiments d'isolement, des pertes d'appétit, des troubles du sommeil. Enfin voilà, des choses qui, concrètement, même si ça se passe effectivement sur un écran et que la personne visée par les raids ou les injures, les menaces de mort, les reçoit sur l'écran de son téléphone ou de son ordinateur, dans la vraie vie, c'est des choses qui ont un impact direct, concret et parfois assez violente.
En plus, c'est du racisme.
Ça, c'est ton opinion personnelle, que je suis raciste. Si tu veux mon avis, tu es un raciste ici, c'est what ?
On évoquait tout à l'heure la question du manque de moyens. Comment ça se fait que la France n'a pas encore ou n'a pas aujourd'hui de parquet national numérique spécialisé dans les crimes en ligne, comme elle a un parquet national financier ou un parquet antiterroriste par exemple ?
Parce qu'on n'en a pas forcément besoin. Créer un parquet national, ça n'entraîne pas forcément plus de moyens, déjà. Et puis, ce sont des infractions qui ont lieu partout et qui nécessitent une réponse quasiment territorialisée. J'entends par là que ça vise beaucoup de choses, le cyberharcèlement, et être hyper spécialisé n'est pas forcément la solution. Vous pouvez vous retrouver déjà avec des auteurs majeurs ou avec des auteurs mineurs. Vous avez... un harcèlement qui va toucher un peu plus à la situation économique, à la situation de la femme, sa situation personnelle. Il faut, je pense, une spécialisation, mais sur le fait que ce soit des violences par Internet notamment, mais pas forcément au niveau national. La question qui se pose, c'est pas tant qu'il y ait un parquet national, mais surtout qu'on puisse faire des enquêtes. Et pour ça, prioritairement, il faut qu'il y ait des plaintes, et donc que la parole soit libérée, en fait. C'est l'une des questions majeures. Par ailleurs, indépendamment des enquêtes, il y a aussi la question de l'après. L'objectif, c'est que ça ne se répète pas. Plusieurs études ont pu démontrer que les cyberharceleurs étaient parfois eux-mêmes auparavant harcelés. Et donc, du point de vue d'un juge des enfants, la question, c'est comment accompagner un mineur pour qu'il ne recommence pas et pour qu'il comprenne ce qu'il a commis. Vous avez des mesures, par exemple, une mesure de réparation pénale, c'est une mesure éducative, avec un suivi pendant 4 à 6 mois, et l'objectif, c'est de remettre la victime au centre de la mesure et remettre l'acte au centre de la mesure pour accompagner la prise de conscience. Ça peut permettre que ça n'arrive plus. Et enfin, un mineur, quelqu'un qui a moins de 18 ans, qui commet du cyberharcèlement, c'est peut-être aussi un mineur qui est en danger et qui a besoin d'être suivi par un juge des enfants, par un service administratif. Donc c'est pas tant l'enquête, bien sûr, qu'il faut faire les enquêtes. Et pour ça, on a besoin des dépôts de plainte, mais c'est aussi tout l'accompagnement et tout l'accompagnement des mentalités par rapport à Internet. Comment utiliser Internet, comment bien l'utiliser, ne pas faire certaines choses sur Internet, et comment accompagner les mineurs là-dedans.
Éric Morin ?
Oui, je suis entièrement d'accord. On passera à côté de la lutte contre le cyberharcèlement si on passe à côté de l'éducation. Mais moi, je ne suis pas éducateur, je suis avocat. Et on ne va pas non plus créer un parquet national à chaque fois qu'il y a un problème. D'ailleurs, le cyberharcèlement, je ne sais même pas s'il pourrait relever d'un parquet national numérique qui aurait déjà beaucoup de choses à faire en matière de lutte anti-blanchiment qui passe par des moyens numériques. Je sais qu'il y a un certain nombre de magistrats, un certain nombre de gendarmes spécialisés qui portent cette idée d'ailleurs depuis plusieurs années. Moi, je me suis fait une autre idée. C'est que on peut pas effectivement demander à chaque parquet, notamment je pense à des petits parquets, et il y en a en France, avec aussi des petites gendarmeries, des petites polices, d'être compétents sur ces matières. On a créé des juridictions interrégionales spécialisées pour la lutte contre la criminalité. Il faut effectivement un ancrage local, ça je suis complètement d'accord avec vous. Si on vient dire à la victime dans le Var ou dans le Gers, tout ça va être traité à Paris, ça ne lui plaira pas, elle ne comprendra pas la question. En revanche, on a aujourd'hui des juridictions interrégionales spécialisées en matière de lutte contre la grande criminalité et je pense qu'on pourrait créer des GIRS, des juridictions interrégionales spécialisées numériques, où on aurait des procureurs, des enquêteurs qui soient formés, qui savent de quoi on parle, qui nouent des liens aussi avec des partenaires locaux et qui nouent aussi des liens avec les plateformes, sans tout faire remonter à Paris, parce qu'il faut cet ancrage local. Mais de la même manière qu'il faut que la parole se libère, oui, la parole, elle se libère, mais il faut aussi qu'on l'entende. Parce que ce n'est pas parce qu'elle se libère qu'on l'entend. Voilà. Et d'ailleurs, on le voit, parce que dans l'affaire de la Ligue du LOL, la parole s'était libérée. En 2010, en 2011, il y avait eu des alertes, et puis on ne les a pas entendues. Alors peut-être qu'on va mieux entendre aujourd'hui, mais en tout cas, il faut aussi savoir mieux entendre d'un point de vue technologique, et aujourd'hui, on n'a pas ça. Moi, j'ai mes plaintes qui sont classées. J'ai mes plaintes qui sont classées, sans d'ailleurs qu'on me le dise, et je ne vais pas toujours pouvoir avoir les moyens pour une victime de saisir un juge d'instruction, d'avoir une instruction qui va durer des mois, qui va encombrer les juridictions, alors qu'on aurait des moyens immédiats à faire, mais il suffit d'avoir... Alors oui, il y a un manque de moyens, on pourrait en parler des heures.
On va faire court.
mais il y a aussi des magistrats qui aiment cette matière, qui sont tout à fait compétents dans cette matière, et il n'y a aucune raison qu'on ne les trouve pas tout autant en région qu'à Paris. Alors oui, on a des moyens à Paris, mais il y a aussi des moyens en région. Il y a des offices centraux qui travaillent avec l'ensemble des parquets de France, et aujourd'hui, on a besoin de ça. Si on n'a pas des personnes spécialisées, on aura une parole qui se libérera devant quelqu'un qui va regarder la victime comme une poule regarde un couteau.
Oui, Camille ?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que le racisme vient surtout de l'ignorance et de la bêtise des gens. Mais bon, on est tous des êtres humains, quoi.
Oui, Camille. Oui, absolument.
Je reviens sur cette question de l'éducation qu'on évoquait tout à l'heure. On parlait de l'éducation des bourreaux, en tout cas de ceux qui sont potentiellement coupables de harcèlement en ligne. Est-ce que du côté des victimes, il n'y a pas justement une éducation à faire, en amont évidemment, sur la réaction à apporter et ou éventuellement les systèmes de défense à mettre en place ?
Il y a forcément une question d'éducation en tant que telle à Internet, à ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire sur Internet. Ça paraît évident, mais en réalité, il y a parfois un fossé entre les parents qui s'imaginent qu'ils ne peuvent pas intervenir sur ce que font leurs enfants sur Internet, considérant que ça leur appartient, et ce que font les enfants sur Internet. Alors qu'il y a des règles de base, ne pas, même à son petit ami, donner des photos ou des images dénudées, ne pas donner ses mots de passe. Voilà, il y a des règles de base qu'il faut apprendre. Après, c'est des deux côtés, encore une fois. Je pense que comprendre la limite, la frontière de l'autre, il faut le transmettre des deux côtés. Et ça passe en effet par aussi les acteurs judiciaires. Les parquetiers mineurs se déplacent, font des sessions de formation, interviennent dans les stages de citoyenneté qui peuvent être ordonnés pour ces infractions-là. Et ça peut être formateur. En effet, ça passe par l'éducation à Internet, je pense, et aux limites qu'on doit se donner sur Internet.
Justement, sur la question des mineurs, puisque c'est souvent le cas et que ça s'inscrit souvent dans du harcèlement scolaire, si l'auteur de cyberviolence est mineur, qu'est-ce qu'il risque ? Comment est-ce que c'est pris en charge d'un point de vue judiciaire ?
Alors, si l'auteur de cyberharcèlement est mineur, soit s'il est complètement inconnu des services judiciaires, il pourra faire l'objet de ce qu'on appelle une alternative aux poursuites. C'est-à-dire que le procureur de la République prendra la décision à l'issue d'une audition ou à l'issue d'une garde à vue. Il peut prendre une décision, par exemple, de réparation pénale, ce dont je parlais tout à l'heure, une mesure de réflexion pendant plusieurs mois sur les faits. Selon la personnalité du mineur, mineur. Le mineur peut aussi être renvoyé devant le juge des enfants qui le mettra éventuellement en examen et qui ordonnera une mesure éducative. Parce que le principe pour les mineurs, c'est les mesures éducatives, c'est-à-dire mettre en place un suivi pour réfléchir et voir l'évolution du mineur. Après l'évolution du mineur, après plusieurs mois, avec un suivi éducatif axé sur les faits, axé sur la victime, voire même qui permettra de rencontrer la victime, parfois ces mesures-là permettent à l'auteur et à la victime de se rencontrer et d'échanger, et à l'auteur de s'exprimer sur ce qu'il a commis. Après ces quelques mois, le juge des enfants recevra un rapport sur la mesure éducative et rencontrera le mineur soit dans son bureau, soit en salle de tribunal pour le juger. Le principe étant des mesures éducatives et après seulement a posteriori de peine.
Ok, là on rentre un petit peu dans un dossier assez important, c'est celui de l'anonymat. Il y a une proposition qui a été faite, hein, c'est celle d'Emmanuel Macron, c'était tout simplement de lever l'anonymat sur les réseaux sociaux. C'est une proposition qu'on pourrait retrouver, si je ne me trompe pas, dans le projet de loi sur la lutte contre les contenus haineux. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi je suis contre. Aujourd'hui, ça reste un réseau, et ces plateformes sont des réseaux de liberté. Donc il faut qu'on la mette au fronton de cette utilisation. Elles permettent un partage. Je ne vais pas reprendre l'expression du secrétaire d'État au numérique sur le monde des bisounours et le Twitter de l'amour, mais ce n'est pas si absurde que ça de le vouloir. Le débat, ça n'est pas le harcèlement. Le débat, ça n'est pas l'injure. Et la révélation d'un certain nombre de faits, la libération de la parole dont on parle, elle ne peut se faire qu'à travers effectivement le fait que je suis à l'abri derrière un pseudo. Ce n'est pas l'anonymat. J'ai donné un certain nombre d'informations, d'identifications pour m'inscrire. Je ne suis pas totalement anonyme. Ça n'est pas de l'ordre de la lettre de dénonciation ou de délation anonyme. J'ai déjà donné un certain nombre d'informations et je laisse quotidiennement, à travers mes connexions, des traces qui permettent de remonter jusqu'à moi. En revanche, je reste à l'abri, si je le souhaite, et on peut quand même constater une certaine tendance à... On le voit, il y a un certain nombre de comptes qui quittent le pseudonymat et qui donnent leur véritable identité. D'abord parce que je pense que ça permet une meilleure hygiène de soi-même, une meilleure discipline de soi-même. On se dit, voilà, maintenant je ne suis plus à l'abri de ça. Et puis, ça permet de dire les choses. Mais cette liberté d'être sous son nom ou d'être sous pseudo, je pense qu'il faut la conserver. Parce que de toute façon, vous aurez toujours des malins qui contourneront le système. De toute façon, tout système a un système de dérivation, de contournement. Et vous ne pourrez jamais exiger ni être absolument certain que 100% de votre réseau sera un réseau totalement transparent avec des identités connues. Donc ça ne me paraît pas être l'urgence du moment.
Lucie Lorrain ?
Je suis complètement d'accord avec vous. En tout cas, nous, pour le syndicat de la magistrature, on est opposés à la levée de l'anonymat. Internet, au départ, c'est quand même un espace de liberté. Et ça doit le rester. On parlait de la question des territoires. Pour certains territoires, Internet, et pour certains mineurs, c'est l'ouverture à la société, l'ouverture aux autres. Et ça doit rester ça. Après... Et en effet, lever l'anonymat, des personnes trouveront d'autres solutions, d'autres techniques pour qu'on ne puisse pas les identifier. Après, c'est à nous de trouver des solutions a posteriori, mais il faut permettre encore l'anonymat et pas le lever.
Et pour se faire une idée, on peut aussi s'appuyer sur différentes recherches, notamment deux chercheurs de sociologues de l'Université de Zurich en 2016 qui ont montré que les propos les plus agressifs étaient tenus par des internautes qui tweetaient et qui s'exprimaient en leur propre nom et qui se revendiquaient de mouvements, notamment politiques. On a aussi vu chez plusieurs victimes de la Ligue du LOL qui s'exprimaient sur Internet à travers un pseudo, je pense notamment à Daria Marx, qui a expliqué que pendant son cyberharcèlement, l'utilisation de son pseudo lui avait permis de prendre de la distance en fait, avec les
de propos, ouais.
De dissocier un petit peu, de se conforter en se disant finalement c'est Daria Marx qui est attaquée, qui est injuriée, qui est menacée de mort et c'est pas moi. Alors ça peut être un peu... voilà, factice et ça peut être un moyen de supporter entre guillemets les injures pendant un court temps, mais ça peut aussi protéger les victimes ou en tout cas les rassurer, celles qui utilisent les pseudos.
On arrive à la fin de ce podcast. Lucile Rouet, Éric Morin, est-ce que vous avez un conseil à donner à nos auditeurs ?
Ne restez pas seul. Voilà, ne restez pas seul. Vous savez, le principe du harcèlement, c'est qu'il se fait rarement en comme on dit en mauvais français, en, en B2B. Il y a une meute d'un côté, un petit groupe qui va se construire et qui va chercher à isoler, qui va se sentir plus forte parce qu'ils sont en meute, ils sont en groupe, et qui va se sentir plus fort parce qu'ils sont en groupe et en meute face à quelqu'un qui va de plus en plus s'isoler. C'est exactement le même souci en matière de harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire prend aussi aujourd'hui le chemin du cyberharcèlement. Mais avant que le cyber n'existe, il y avait du harcèlement scolaire à la sortie des écoles, dans les cours d'école, dans les couloirs de classe, etc. etc. Et ce phénomène de repli, il aboutissait à des drames. Je ne pense pas qu'il faille qu'on attende systématiquement des drames pour prendre de l'avance. On a toujours pris du retard, à part le Minitel, et ça commence à remonter. On a toujours pris du retard, et la justice en particulier a toujours pris du retard par rapport au numérique. C'est sans doute parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent parfois qui est derrière un certain nombre de mouvements et qui prennent la forme d'une délinquance numérique. Ça serait bien qu'on prenne un petit peu d'avance pour une fois.
Entourez-vous, ce sera la conclusion de cet épisode de Juste un droit. À violence virtuelle, blessures et poursuites bien réelles, je pense que c'était l'une des infos importantes à retenir justement aujourd'hui. À ceux qui voudraient aller plus loin, plusieurs recommandations. Pour saisir toute l'étendue du harcèlement en ligne, je ne saurais que trop vous conseiller de lire la série de témoignages recueillis par nos journalistes. Alors vous les trouverez dans le dossier pris pour cible sur venute.fr. Fin de la pub. À propos de la Ligue du LOL, alors au moment de préparer cette émission, nos confrères podcastiques Quoi de Meuf, Programme B ou Les Couilles sur la Table, ainsi que l'émission de France 2 Je t'aime, etc., où participait justement Eric Morin, ont très bien décrit ce qu'était cette sinistre machine à broyer des femmes. On vous encourage à regarder et à écouter. Enfin, difficile de ne pas remercier nos invités qui se sont libérés en un temps record. Lucille Rouet, je rappelle que vous êtes secrétaire nationale du syndicat de la magistrature et juge des enfants à Paris. Éric Morin, vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci à tous les deux. Sans notre experte maison, pas d'émission. Encore merci Hélène. Si cet épisode vous a plu, dites-le nous. On attend vos étoiles sur la page iTunes de Juste un droit et vos remarques sur le mail audio@20minutes.fr. Pour info, Justin Droit reprend son rythme de croisière et vous donne donc rendez-vous le mois prochain. À dans un mois, et que justice soit faite.
Vous voulez un whisky ?
Oui, Justin Droit.
Juste un droit.
Hey !